Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Nous sommes en juin 2026 et c'est un épisode de news. Et comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex.
Salut Patrick, salut tout le monde. On revient sur cette RC2, c'est-à-dire la deuxième version du mois sur l'actualité. On va parler évidemment de code, de PHP, de documentaire sur PHP, évidemment d'IA avec des workflows, des solutions, des librairies qui nous facilitent la vie et qui viennent en fait mettre vraiment de la qualité dans notre code. On va parler aussi de Mistral et du super storytelling qu'ils ont réussi à faire. On va parler de modèles open source dédiés spécifiques pour le développement agentique. Et évidemment, on va parler aussi d'IA locale avec des machines adaptées pour nous, développeurs. On attaque tout de suite, Patrick ?
Carrément, c'est parti.
Allez, c'est parti. WordPress qui, en fait, prend un peu de la distance sur l'ultra réactivité des mises à jour. Ils considèrent que maintenant, ça serait bien de faire un peu attention et donc ils mettent une sorte de police en pratique pour éviter de se faire hacker ou en tout cas d'utiliser de la chaîne d'approvisionnement pour récupérer des mauvais tokens ou des variables d'environnement ou de se faire injecter tout simplement quoi.
Ouais, en fait, ils sont comme tout le monde en ce moment. Tout le monde se fait attaquer avec les chaînes d'approvisionnement, tout ça. Donc, ils sont en train de mettre en place. Donc, c'est Protect the Shire. Ils ont mis en place un délai de 24 heures, en fait. Par exemple, si tu as un plugin qui est déjà installé sur ton site et que la personne qui gère le plugin fait une mise à jour, il y aura 24 heures avant qu'elle soit disponible pour ton site, où tu puisses cliquer pour la mettre à jour. Et donc, ils mettent tout un process, en fait, avec de l'IA, etc., pour contrôler, en fait, qu'il n'y a pas de truc de vulnérabilité ou d'injection, etc. Donc, ils mettent en place une sorte de tool chain pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème, etc., avant de l'envoyer sur les sites, de rendre disponible. Donc, c'est pas mal parce que, après, ils espèrent compresser ce délai de 24 heures, justement, avec l'IA, ils vont l'améliorer, etc. Mais voilà, ils mettent en place ce truc pour dire, normalement 24 heures ça peut suffire pour trouver que en fait il y a eu plein d'histoires sur tous les packages et sur les plugins WordPress où il y avait des gens qui avaient racheté des plugins super connus pour aller y injecter en fait du code malveillant. Donc voilà, c'est assez tordu. Les mecs manquent pas d'ingéniosité pour aller infecter les machines. Donc,
on est complètement d'accord. Après, c'est un peu de bon sens. Est-ce que c'est plutôt une politique qu'il faudrait démocratiser partout sur tous les providers ou toutes les marketplaces ou toutes les bibliothèques de librairies, je sais pas, mais en tout cas c'est plutôt une bonne initiative et ça veut dire qu'ils prennent aussi à cœur le problème de la sécurité, surtout sur l'attaque par chaîne
d'approvisionnement,
ouais. Exactement. Donc c'est plutôt une super bonne pratique, je trouve. C'est pas débile,
c'est super intéressant en fait. Moi j'aime bien, c'est pour ça que j'ai mis ça, parce que WordPress, au-delà de la plateforme, WordPress c'est super intéressant parce que c'est un projet qui est énorme en fait, avec une énorme utilisation en fait, beaucoup un parc d'installation gigantesque en fait, et c'est toujours intéressant de voir comment eux ils gèrent cette énorme installation de sites qu'ils ont à gérer au niveau des mises à jour de plugins, tout ça. Donc c'est bien de voir ce qu'ils mettent en place et ça peut donner des idées à d'autres plateformes de CMS, etc., comment faire. Donc à suivre, mais voilà, ça vient de sortir et on verra si c'est efficace. En tout cas, en aparté, tout ce qui est NPM, tout ça, Yarn et tout ça, on en a déjà parlé dans l'épisode précédent, ils ont tous mis en place des trucs pour bloquer les scripts. Composer, qui est le truc de PHP, c'est pareil, ils ont mis un truc pour bloquer les scripts. Donc on voit que tout le monde réagit. Et voilà, c'est très bien. On espère. Alors après, c'est pas dit qu'ils trouvent pas une autre méthode pour aller injecter du code malveillant, mais en tout cas, cette pratique-là devrait être limitée dans les prochains mois.
C'est le jeu du chat et la souris. Sans doute, les personnes trouveront autre chose, et ça sera à nous d'être vigilants justement pour rester en alerte sur cette nouvelle manière de faire pour aller récupérer des credentials et les variables d'environnement. Yes. On bascule dans l'univers React. On le dit et on l'a dit plus que bon nombre de fois sur ce podcast. La souveraineté, c'est super important. Et surtout, la gouvernance, c'est-à-dire qui décide du projet. Et là, React, qui a été longtemps incubé, enfin même incubé chez Meta, Facebook.
Créé par Meta.
Ouais, même créé par Meta. Mmh. C'est sorti... est sorti en fait de toute la gouvernance est basculée sur la React Foundation. Et là, en fait, on comprend que la React Foundation se vient être incubée dans la Linux Foundation.
Ouais, bah, en fait, ils ont quitté officiellement Meta. Donc, c'est plus Meta maintenant, on est sur React. Voilà, c'est une fondation qui a été créée avec plusieurs acteurs. Il y a Amazon, Huawei, Meta, Microsoft, tout ça. Donc, Meta est toujours dedans, mais c'est juste, voilà, c'est une fondation
complètement à part.
Voilà. Et après, quand on rentre dans la Linux Foundation, ça veut dire que c'est vraiment un truc, voilà, open source qui va durer dans le temps, etc. Donc, ça pérennise le projet et la fondation pour durer. Donc, c'est rassurant d'un côté. Ça serait resté chez Meta et imaginons que Meta se dise, bon, bah, React, maintenant, on a une nouvelle techno, on s'en fout. Et là, on se rend compte que voilà, ils ne seraient plus trop investis dessus. Là, au moins, c'est sorti, c'est communautaire. Il y a des soutiens au niveau de grandes boîtes. Donc voilà, pour le projet React en lui-même, c'est une bonne nouvelle parce que voilà, ça veut dire qu'il va durer longtemps et qu'il est complètement indépendant.
Après, peut-être parce que je suis développeur et je suis complètement parano, mais mine de rien, quand les mecs sont à la fondation et les mecs c'est des gros genres Amazon, Huawei, Meta, Expo, Microsoft et Vercel. Ok, ils injectent sans doute de l'argent, ils sortent la gouvernance, mais s'ils viennent avec des millions de dollars en disant « Écoute, tonton, nous, on vous finance, mais ça ne va pas faire, là, ça prend une mauvaise direction », je reste intimement convaincu qu'ils ont le poids et ils ont en tout cas, leur voix aura une oreille attentive, je pense. Donc, même si en termes d'organisation et de structure, si tu veux, on reste sur quelque chose de totalement communautaire, organisation et gouvernance, à la fin, celui qui paye, il a quand même un poids. Donc, j'espère que ça ne sera pas comme ça. On est d'accord.
C'est clair.
On est d'accord. Mais à voir comment ça évolue, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ils sont incubés chez Linux Foundation. Allez, petite légèreté documentaire PHP sur l'histoire. Exactement, c'est culte.
Cherchez le nom.
Exactement. En fait, ça a changé de nom, je ne sais pas combien de fois. Mais ces petits documentaires, en fait, répliquent ou en tout cas expliquent toute l'histoire d'une technologie. Et aujourd'hui, on revient sur PHP. Le documentaire n'est pas encore sorti. C'est un teaser.
Ouais, c'est un teaser en fait sur l'histoire de PHP. Donc, il y a pas mal d'acteurs qui vont témoigner. Donc, Taylor Rothwell, qui est le créateur de Laravel, il y a Fabien Potentier aussi, le créateur de Symfony, qui vont témoigner. Et donc, bon, pendant le teaser, en fait, c'est un peu marrant parce que tu sais, il y a une petite guéguerre entre Symfony et Laravel, et du coup, ils font un peu de tease là-dessus, tu vois. Donc, c'est marrant, mais je pense qu'en fait, les deux sont pas du tout ennemis. Et donc, c'est intéressant pour les fans de PHP. C'est quand même un langage qui est très important pour le web et où beaucoup d'entre nous avons appris. C'est le premier langage quasiment qu'on apprend quand on commence à faire du script. Donc, sympa de revoir. Donc, je ne sais pas quand il sort exactement, mais ça va dans pas très longtemps, je pense. Mais ça va être intéressant à regarder.
Excellent. Petit Netflix décontracté, facile, quoi, dans l'univers web. Yes. Allez, on bascule sur la tendance des MCP. On a vu, même si tous les gros acteurs de l'IA ont dit « Ouais, le MCP, hop, 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 hop. » Ils ont un peu freiné des cas de fer quand même. Ils se sont bien détendus sur l'utilisation et l'implémentation des MCP. Néanmoins, Chrome, en fait, revient avec cette possibilité de web MCP, de Origin Trial. C'est quoi ça ?
Alors l'Origin Trial, c'est un truc que j'ai découvert. Alors apparemment, ça n'existait pas d'aujourd'hui, ça existe depuis un an ou deux ans. Okay. C'est un système qui te permet de... Tu rentres dans une sorte de programme, tu t'inscris et ensuite derrière ils te donnent une sorte de token et que tu vas intégrer sur ton site. Donc tu as une balise méta, tu dois aussi l'inclure dans tes appels Ajax, tout ça. Et ça te donne, en gros, si tu veux, ça permet à tes visiteurs de tester les WebMCP. Voilà, grâce à ce token, en fait, ton site devient compatible WebMCP en preview. Et donc, ça te permet de tester vraiment les WebMCP en production, en fait, avec des utilisateurs, des agents, etc. Donc, je connaissais pas ce système d'Origin Trial. Donc, apparemment, il y a eu d'autres trucs avant. Mais là, du coup, ça nous permet, en fait, de tester les WebMCP directement sur ton site, de voir, un agent qui va interagir avec ton site, etc. Et ça fonctionnera. Et normalement, sans flag, si j'ai bien compris. Donc, il n'y aura pas besoin que l'utilisateur mette un flag, etc. Ça va fonctionner, en fait, sur la version 149 de Chrome.
En fait, c'est un feature flag inversé, quoi. C'est-à-dire, au lieu que ça soit l'utilisateur qui vient déclencher son flag, ouvrir son flag, là, c'est toi qui ouvres le site que sur cette feature-là pour la rendre compatible.
Ah ouais, c'est ton site devient compatible WebMCP. C'est
excellent,
génial.
En fait. Excellent. Ouais. Excellent. Et tu as déjà fait la démarche, toi, ou pas encore?
Non, je n'ai pas encore essayé. Alors après, je suis... j'ai pas essayé. Il faut que je me penche un peu dessus. Je me suis amusé là il y a pas longtemps à passer un formulaire en WebMCP avec les directives, tu sais, dedans, tout ça, machin, juste pour voir un peu ce que c'était. C'est intéressant à faire, en fait. Parce que du coup, quand tu envoies le formulaire, c'est pareil, il faut vérifier si c'est un bot, machin, bidule. Enfin voilà. Donc il y a plein de petits trucs. C'est intéressant de juste d'essayer pour voir comment ça fonctionne. Mais peut-être, ouais, j'essaierai. Je sais pas. On verra. Après, je sais pas si c'est encore bien utilisé, mais
est-ce que ça va devenir un standard ou ce standard va mourir ou pas, quoi. Et c'est toujours toute la difficulté de notre métier, c'est de dire, OK, il faut rester au goût du jour, mais est-ce que l'effort que je vais fournir va payer dans le futur parce que j'ai un avantage concurrentiel certain, parce que j'ai fait l'effort avant tout le monde. Sauf que si tu fais l'effort... Et au final, ce protocole meurt, c'est trop tard, quoi. Tu vois, t'as perdu du temps, tout. Donc, toujours difficile de savoir si ce standard, en fait, va devenir une norme. Et dans ce cas-là, tout le monde y passera. Donc, en clair, est-ce qu'il faut rester attentiste ou on teste ?
Pour l'instant, il le pousse, ça, c'est clair. Après, il deviendra un standard à partir du moment où... parce que le but, c'est que tu demandes à un agent de dire « réserve-moi un billet d'avion pour aller à Paris ». Et le but, c'est d'avoir un site qui soit capable de faciliter la vie à l'agent. Donc, en fait, ça deviendra un standard et ça va marcher que si les personnes utilisent leur agent IA pour faire ça. Si, par contre, personne n'utilise son agent IA pour réserver un avion... ça marchera jamais, quoi. Ça ne servira à rien.
Mais d'un autre côté, si les agents IA ne sont pas fonctionnels, la courbe d'adoption ne marchera pas. C'est-à-dire, si on demande à un agent de faire une tâche et puis au final, l'agent n'est pas en capacité de le faire parce que le site n'a pas été codé pour, les gens vont dire « Ouais, ça ne marche pas, c'est de la merde, c'est nul, ça ne marche pas. » Donc, en fait, tu vois, c'est le serpent, quoi.
Parce qu'il faut savoir, on avait déjà parlé des WebMCP il y a plusieurs épisodes quand c'est sorti déjà au début. Il faut savoir comment ça fonctionne aujourd'hui un agent. Quand il visite un site web, il fait des screenshots. Il faut vraiment avoir conscience de ça, en fait. Il va sur le site, il fait un screenshot. Il va trouver le bouton de recherche, par exemple. Donc, il va faire un screenshot. Il va dire, c'est là le bouton. OK, je vais cliquer là. Nanana. Et du coup, ça prend du temps et c'est compliqué pour l'agent. Ça prend du temps, quoi. Le WebMCP va faciliter ça. Il y a beaucoup de tokens. Et le WebMCP va faciliter ça. Donc, je pense que si tu es... Alors, moi, je sais que si j'étais responsable d'un site de réservation de vol d'hôtel ou de trucs comme ça, c'est booking.machin, on va pas dire les noms, mais... J'implémenterai ça le plus vite possible. Ouais. Parce que je pense qu'il y a peut-être, en tout cas, une course à jouer là-dessus pour être disponible et compatible le plus vite possible et voir si ça prend, quoi. Mais je le ferai, en tout cas, si je vendais des trucs. Ouais.
Clairement. Yes. Et justement, quand on parle d'agents d'IA, on est obligé de coder des agents et... immédiatement, en fait, on va être obligé de construire, en fait, tous ces agents avec des librairies, des harnais, plein de choses qui sont assez indispensables pour donner à l'agent en fait toutes les ressources nécessaires pour faire correctement son job. Et là, pour le coup, c'est TanStack qui revient, qui passe de alpha à bêta. Sur ouais. son... C'est quoi ? C'est un framework ? C'est une librairie ? C'est quoi ?
C'est un framework. Alors, je rappelle, il était sorti en alpha en décembre, je crois, 2025. Et donc là, il passe en bêta. Donc, ça veut dire que rapidement... Ah bah, c'est marqué là, tu vois. C'est en alpha en décembre. Et je pense que d'ici, avant la fin de l'année, ça sera officiel. C'est un framework IA qui, un peu comme à mi-chemin entre le AISDK de Vercel et Mastra, qui est le framework vraiment pour faire des agents avec l'interface, tout ça. Et ça te permet en fait de créer des agents avec de te brancher facilement sur n'importe quel provider, de même de switcher d'un provider à l'autre. Et ensuite, tu as plein d'outils. Tu peux rajouter des MCP, tu peux rajouter des skills, tu peux faire plein de trucs. Voilà. Et c'est toute une librairie avec des fonctions qui te permettent de faire ça facilement. Comme d'habitude, TanStack, c'est complètement agnostique, c'est-à-dire que voilà, c'est lié à aucun framework, etc. C'est du TypeScript, donc tu peux le mettre sur n'importe quel framework. Il y a tout qui est compatible, etc. Et c'est hyper puissant. Alors, on avait regardé quand c'était sorti en bêta, je crois, certainement en décembre, où il y avait pas encore énormément de choses. Là, depuis, ça s'est vraiment étoffé. Il y a énormément de fonctions, de tools, etc. C'est juste hyper complet. Et voilà. Et surtout, c'est toujours open source, agnostique, etc. C'est attaché à aucun provider ou quoi que ce soit. Ils ont juste des sponsors, donc c'est cool.
Excellent. Top.
Voilà. Toujours un super travail de la part de l'équipe TanStack.
Autre sujet. Aujourd'hui, même si on est accablé de mails, aujourd'hui, ça reste quand même un vecteur de communication qui est juste monstrueux. Et on l'a déjà dit, mais utiliser des emails graphiques, en fait, vient vraiment augmenter la qualité perçue pour le client final. Et pour ce faire, il existe plein de solutions. Et une des solutions, c'est Maizle. Je ne sais pas si on dit Maizle, si on dit Maizle, ouais. Je ne sais pas comment le dire. Toujours est-il que cette nouvelle version sort en version 6 et c'est un framework qui nous permet d'utiliser des composants pour concevoir en fait des emails graphiques. Et surtout, tout est standardisé. Mmh. Donc, quand on est développeur et on utilise Tailwind ou pas, d'ailleurs, vachement plus facile. Et je me devais de parler de cette nouvelle mise à jour parce qu'ils ont fait la migration sur Vue.
Ouais, 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 c'est clair. Mais pas que. Mais c'est assez puissant. Hein. C'est hyper bien fait. Et surtout, tu peux faire avec Tailwind et tout ça, c'est vraiment puissant en fait de pouvoir faire des templates en Tailwind. Enfin, c'est hyper bien fait. Et j'ai vu qu'ils avaient aussi sorti des choses pour les agents là, pour leur donner des skills, tout ça, pour pouvoir qu'ils créent des templates facilement, tout ça.
Exactement.
Non, elle est hyper bien faite cette bibliothèque en fait.
Et pour c'est hallucinant la qualité du rendu et surtout pour des personnes qui se sont frottées un peu au jeu de concevoir des emails graphiques, on est très 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 vite limité par la multitude de clients email avec leurs règles à la con, tout ça. Donc faire ça à la main, c'est juste impossible. On est obligé de passer par ce type de librairie en fait pour concevoir et standardiser la production. Sinon, on s'arrache les cheveux, quoi. C'est juste pas possible. Version 6, tout beau, tout neuf. On peut brancher des agents dessus. Super pratique.
Ouais, et des compétences pour les agents, tout ça, c'est top.
Autre sujet, mais pas des moindres, des modèles pour coder. C'est Z.ai qui sort un nouveau modèle qui s'appelle GLM 5.2. Qu'est-ce que ça amène comme paradigme et pourquoi nous, en tant que développeurs, ça serait intéressant de s'y pencher ?
En fait, ZAI, c'est un laboratoire chinois qui fait des modèles open source, open weight. Et alors aujourd'hui, la partie chinoise est très très productive au modèle open weight. Ils en sortent énormément, des très performants et qu'on peut utiliser chez des hébergeurs, etc. Donc, je rappelle qu'il y a quand même pas mal de providers européens qui proposent des modèles disponibles en API. OVH, Infomaniac, etc. Il y en a plein. Donc, on n'est pas forcément obligé d'utiliser des modèles fermés des Américains, je rappelle. Et donc, ce modèle-là, GLM 5.2, vient de sortir. Il y avait déjà le 5.1 qui existait, sauf que celui-là, attention, il est donc MIT OpenWeight. Donc, vous pouvez le prendre et l'utiliser comme vous voulez. Le truc, c'est que celui-là, d'après les premiers benchmarks, parce que c'est tout frais, hein, ça vient d'arriver, d'après les premiers benchmarks, il est capable de rivaliser avec des modèles de Opus, en fait, d'Anthropic. Donc, c'est okay. Ça, là, on voit que le gap entre les modèles open source et les modèles fermés se réduit de plus en plus, voire limite, il passe au-dessus. Donc, c'est assez puissant. Et à un moment où on parle de prix de token qui est en train d'exploser, etc., de modèle interdit aux non-américains, on va pas revenir là-dessus parce qu'il y a eu pas mal de médias qui en ont parlé. Du coup, les gens se posent de plus en plus la question. Et là, on voit qu'on a des modèles qui sont capables de rivaliser avec les meilleurs modèles fermés. Donc, voilà.
J'ai envie de dire. Très intéressant. Parce que si tu payes... en fait, OK, tu achètes ton inférence chez Anthropic, mais en fait, tu payes ton inférence et le modèle, l'utilisation de ce modèle-là. Sauf que si demain, tu mets ce modèle-là chez un autre provider qui te fait une inférence beaucoup moins chère, là, c'est plus du tout le même game, quoi. C'est beaucoup plus intéressant. Mmh. Et donc, la guerre est vraiment déclarée, je pense. Mais vraiment.
Bah, la guerre est super déclarée. Déjà, alors, je vais parler de Fable qui est sorti la semaine dernière pendant 2 jours. la blague de la semaine dernière. Mais c'est juste, les tarifs sont hallucinants, en fait. C'était $10 en input et $50 en output. Donc, c'est juste fou. Alors, les mecs, ils te disent, ceux qui l'ont testé, moi, je ne l'ai pas testé. Hein.
J'ai pas eu le temps.
Ouais. Le modèle est exceptionnel, tout ça. Ça, à ne pas douter, c'est sûr que c'est un super modèle, etc. Alors, ça, à savoir... Alors, je vais en parler vite fait, mais pour ceux qui n'ont pas suivi, mais on avait Mythos qui était en teasing depuis des mois. C'est le meilleur modèle de toute la planète. On n'ose pas le sortir tellement il est bon. En fait, Fable est un modèle Mythos. C'est juste qu'ils l'ont séparé et que, en fait, en gros, Fable, ils ont enlevé toute la partie recherche de failles de sécurité, etc. Et ils l'ont bloqué aussi sur certaines tâches comme de recherche, etc. Bon, d'ailleurs, les mecs ont un peu gueulé là-dessus parce qu'ils avaient des erreurs un peu... Des faux positifs, tout ça. Mais le prix est totalement dingue, en fait. Et c'est-à-dire que Anthropic, à chaque fois qu'ils sortent un modèle, les prix doublent en ce moment. Donc, quand on voit $50 en output, c'est juste hallucinant, quoi. Je sais pas jusqu'où ça va monter. Mais bref. Et en fait, les modèles chinois qui sont open source, tout ça, c'est juste des tarifs de fou, en fait. Si tu prends DeepSeek actuellement, qui est un très beau modèle, DeepSeek 4 Pro, le coût de l'API est vraiment ridicule par rapport à des modèles américains. Donc, ça coûte vraiment pas cher. Sachant quand même que ZAI aussi propose des abonnements pour coder, etc. Tu peux prendre un abonnement comme chez Anthropic et tout ça. Le seul problème, en fait, c'est pour les entreprises. Si tu es une entreprise française, c'est un peu compliqué d'utiliser des modèles chinois, tout ça, parce que si le RGPD et le Cloud Act qui va rentrer en vigueur là en août est pas vraiment compatible avec les Américains, parce qu'ils ont les serveurs sont américains, même s'ils sont en Europe, mais ça reste aux Américains, tout ça, machin. Les Chinois, c'est encore pire. Ça respecte encore moins la RGPD, tout ça. Donc, c'est compliqué pour les entreprises. Donc,
ouais, mais le si fait, par exemple, je mets mon inférence en France et j'utilise un modèle chinois, mais j'utilise mon inférence en France, ça marche, ça?
Bah c'est ça, justement. C'est ça la solution. C'est de, vu qu'ils sont open weight, tout ça, tu le prends, le modèle, et tu le mets en hébergement en France ou en Europe. Et là, tu deviens totalement compliant. C'est RGPD, tout ça. C'est en Europe et tout. Et là, t'es nickel. Donc, pour les entreprises, avoir des modèles comme ça, hyper performants, open weight, que tu peux héberger toi-même, c'est juste top, quoi. Et on voit qu'aujourd'hui, les Chinois sont super productifs sur des modèles comme ça, performants, open weight, là où les Américains sortent quasiment rien, en fait.
Voilà. Mm. Si, ils font des trucs fermés, business, à $50 le million de tokens. Voilà,
ouais,
c'est ça qu'ils font.
$50, mon gars.
$50.
Bon, après, il était top. Apparemment, il était vraiment performant et les mecs, ils ont halluciné tout ça. Mais, bon, mais le tarif,
quand même.
Qui va pouvoir... Alors, les mecs gueulaient beaucoup. En fait, et c'est pas faux, c'est qu'en fait, à un moment donné, on va arriver à un truc, c'est que seuls les gens qui ont de l'argent ou les sociétés qui ont de l'argent pourront se payer la pointe des modèles et les autres pourront pas. Et du coup, ça va faire des sortes de gap entre ceux qui ont de l'argent, ceux qui n'ont pas d'argent et des produits qui vont pouvoir sortir.
Oui, oui, mais...
Bon, après, tu vas me dire c'est le capitalisme, mais...
mais de manière générale, on ne va pas faire de la philosophie ou de l'analyse sociétale ici sur le podcast, mais c'est déjà le cas dans plein d'endroits. Donc en fait, le gap et le schisme en fait, qui va se créer au sein, qui existe déjà au sein de la société, va arriver aussi sur les boîtes de tech, sur les boîtes de dev et sur les autres. C'est est-ce que tu auras la thune suffisante pour prendre le train de l'IA ou pas ? Point. Et ça risque d'être très, 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 très violent. Mais...
Bah parce que c'est fou. Hein. Quand tu, j'écoute certains podcasts. Il y en a, ils dépensent des fortunes par mois en inférence, quoi. Mais des fortunes, quoi. Je parle de milliers de dollars, en fait, des 100 000 dollars ou des trucs comme ça. C'est juste dingue, en fait.
Après, la vraie question, c'est est-ce que, à la fin, si tu fais ton calcul, c'est OK, ça me coûte 10 000 dollars par mois, par exemple. Mais grâce à ça, en fait, j'ai un output à 100 000. Et où, tu vois, où j'aurais, pour faire ce que je donne à 10 000, il m'aurait fallu peut-être 40 000 de masse salariale. Là, ça ne me coûte que 10 000 d'inférence. Bah, au final, c'est rentable, si tu veux. Donc, en fait, il ne faut pas regarder le chiffre
oui, je suis d'accord.
Pur. En fait, il faut regarder l'output et qu'est-ce que ça génère à la fin pour dire est-ce que c'est intéressant. Purement chiffre. Après, remplacer des jobs, tout ça, il y a une dimension sociétale, humaine, tout, qui est totalement autre. Mais si tu regardes purement chiffre, bah, est-ce que c'est rentable ou pas, quoi, tu vois ? Et donc, il faut juste regarder ça, déjà, avant de...
Ouais, non, mais je suis d'accord, mais tout à fait, t'as raison. T'as des trucs où, par exemple, je sais qu'il y a une boîte où ils font de la cybersécurité aux États-Unis, là. Ils sont 3 ingénieurs et voilà, ils font beaucoup de boulot. Voilà. On va dire, tu sais, c'est des sortes de petites boîtes AI natives, tout ça, machin. Après, donc ça, peut-être, oui, c'est rentable. Les mecs, ils sont que 3, ils arrivent à faire beaucoup de travail, tout ça, grâce à l'IA, tout ça. Après, t'as d'autres boîtes, par contre. Là, j'ai regardé une vidéo sur Doctolib, où eux, ils ont commencé à intégrer officiellement depuis janvier 2026 l'IA, Cloud Code, etc., tu vois. Et quand à un moment donné, quelqu'un leur a posé la question, est-ce que vous gagnez du temps ? Est-ce que, voilà, dans l'audition, bah, il a dit, bah, en fait, ça fait que 6 mois, donc on peut pas vraiment, on n'a pas assez de recul, tu vois. Donc, tu vois, Donc, voilà, difficile pour l'instant de quantifier, de donner un chiffre sur le gain réel, en fait. Et donc, voilà.
Totalement.
Même pour des grosses boîtes. Ouais.
Mais bien sûr, c'est très, 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 très difficile. Et plus tu es gros, plus c'est difficile de vraiment quantifier la plus-value de productivité. Mmh. Donc, à la fin, du bout, la marge, quoi. Donc, très, très, très difficile. Allez, on rebascule sur un autre modèle, en fait, qui, lui, est dédié, spécifique et entraîné pour faire du code, donc qui est vraiment un modèle pur code. Et pour le coup, là, ça n'engage que moi, mais je suis intimement convaincu que demain, des modèles généralistes, en fait, se feront défoncer par des modèles entraînés qui ont pour but de faire que du code. Je pense que nous, dans notre métier en tant que dev, l'avenir est sur ce type de modèle-là, des modèles spécifiques pour le développement agentique. Mmh. On ne va pas lui demander d'écrire du marketing ou des choses comme ça, non, que du code. Et ça s'appelle Meloom 2, et pour le coup, c'est issu de JetBrain.
JetBrain, ouais, la boîte qui crée des éditeurs de code, PHP Storm, etc. Meloom 1, apparemment, il était plutôt fermé, je n'ai pas trop suivi, mais là, le Meloom 2, il est open source, open white, donc là, celui-là, il est dispo. Et la particularité, alors contrairement à GLM 5.2, où on a discuté avant, qui est un gros modèle, hein, celui-là, c'est des petits modèles en 12B, donc du coup, installables localement sur Olama ou des choses comme ça, si vous avez, à condition d'avoir un ordinateur un minimum puissant. Enfin, c'est pas non plus une bête de compétition qu'il faut, hein, mais il faut quand même un truc, voilà, au moins un petit peu de RAM quand même. Et du coup, lui, il est super entraîné sur le code, donc ils l'ont vraiment entraîné à fond sur le code PHP, C, etc., Java, tout ce que tu veux, JavaScript, HTML, tout ça. Il y a la liste des langages. Et du coup, il est plutôt performant. sans être un modèle de fou, hein, c'est, mais par contre pour des tâches classiques, etc., il est capable de bien travailler et surtout en local. Donc voilà, un modèle intéressant qui est complètement disponible sur Hugging Face et que vous pouvez installer sur Olama, ML Studio, tout ça, machin.
Donc intéressant.
Et c'est surtout intéressant. Et c'est JetBrains, c'est ça, c'est marrant. Je savais pas que JetBrains développait aussi des modèles, voilà, de leur côté.
Je sais, je savais pas non plus, mais en tout cas, la démarche open source, open weight est plutôt acceptable et sympa à voir.
Ouais.
Allez, on revient pour des histoires de gros sous et de gouvernance aussi. Void Zero, l'écosystème développé par Evan Yu, donc qui est le créateur de Vue, mais aussi de Vit. Avec tout un écosystème de solutions réécrites en Rust pour faciliter le développement d'applications, se fait incuber, racheter, je ne sais pas le terme exact, mais en tout cas, ouais. Se rapproche définitivement de Cloudflare pour fusionner. Et donc, il a fait un article pour expliquer pourquoi.
Ouais, il a fait un article, ben, tout simplement. Alors, les projets, alors rassurez-vous, les projets phares, Vit, Vitest, Rolldown, OXC, Vit Plus, resteront. Vit Plus, c'est de passer open source aussi, du coup. Resteront open source et sous licence MIT. Donc, rassurez-vous, il n'y a pas de problème. C'est pas Cloudflare qui possède ces technos, tout ça, ces outils. Par contre, oui, Void Zero passe chez Cloudflare. Alors, il faut savoir que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu. Ils avaient lancé un système de déploiement Void Zero il y a. Peut-être 2 mois, je crois. Et ça avait fait un petit peu un tollé, justement, parce qu'ils étaient très proches de Cloudflare, en fait. Finalement, ça fonctionnait que sur Cloudflare, d'ailleurs, je crois. Et que tout le monde avait dit, ouais, mais c'est quoi ce bordel et tout. Et il avait dit, bah, soit tu l'utilises, soit tu l'utilises pas, mais t'es libre, quoi. Enfin, ne casse pas les pieds, quoi. Ouais. Et donc, ça a laissé présager, en fait, que c'était plus qu'un rapprochement. C'est carrément, l'équipe est maintenant chez Cloudflare. Et il explique tout simplement que, c'était difficile pour eux au niveau financier. Tout simplement, comme tous les projets open source, ils avaient vraiment des problèmes de financement, de sponsors, tout ça. Ils ont essayé, alors on se rappelle de Vite Plus, où ils avaient essayé de lancer un truc payant, je sais plus exactement. Au début, ils voulaient faire une sorte de licence, je sais plus, mais ils disent c'est un échec, ça n'a pas fonctionné, etc. Donc, on voit que c'est compliqué. Donc, c'est la seule solution, comme tout, comme Astro, comme, tous les derniers, comme Nuxt, tous les derniers projets qui sont rapprochés de gros providers, c'est de finir comme ça et de pérenniser les projets. Quoi.
À la fin, donc, c'est toujours une histoire de gros sous et comment on fait pour financer de l'open source
Ils ont besoin de vivre, hein, les mecs. Hein.
Non, mais bien sûr, en mode open source, on voit le mec qui est dans son garage, qui fait sa lib, tout seul. OK, c'est bien, ça marche, mais quand tu veux structurer, être ambitieux et avoir, sortir un peu de ce giron, pas amateur, mais quelque part, un peu quand même. Tu es obligé de te structurer et ta structure te coûte de l'argent. Et à un moment donné, c'est pas périn. Donc, pas grande surprise sur ce rachat ou ce rapprochement, cette fusion. Appelle ça comme tu veux.
Ouais.
Mais en tout cas, ça assure aussi une pérennité. Quoi. Donc,
pas d'un côté, c'est cool, ouais, pour la pérennité. De l'autre, c'est encore les mêmes qui récupèrent des gros projets. Donc, on parle toujours de direction, comment ça va partir, tout ça. Bon, les projets restent open source quand même, mais les décisions, on sait que maintenant, le poids de Cloudflare est quand même plus important que le reste.
Oui.
Bon, à voir. Après, je me disais, en même temps, moi, en tant qu'utilisateur, j'utilise beaucoup. Tous mes projets tournent sur Vite, etc. Hein, j'ai jamais mis un centime, en fait.
Oui.
Sur Vite, donc en même temps je me sens coupable, je me dis moi j'ai jamais aussi contribué financièrement, donc on est un peu tous pareils, tu vois, donc
et le pire c'est et le pire c'est qu'on a construit des logiciels, on a été payé pour construire ces logiciels avec ces briques qui sont gratos et open source
et on n'a jamais mis un centime
et on n'a jamais mis un centime et dès qu'on doit payer c'est Twitter rage en mode « Ouais, c'est scandaleux !» Mec, tu peux me rappeler ton TJM jour, s'il te plaît?
C'est ça. Finalement, le seul truc pour lequel on paye les devs, c'est l'IA. les tokens.
Ouais, c'est là, c'est, où dingue, hein. C'est là où on a accepté de sortir la carte bleue plus facilement. Donc ouais, voilà, c'est intéressant.
Alors que les devs sont connus pour rien vouloir payer. Mais...
c'est des pinces, c'est des pinces les devs, c'est des pinces. Yes. Allez, petite, on retourne chez Chrome Developer.
Ouais.
Avec une nouvelle fonctionnalité qui est derrière un feature flag, il me semble, ou pas encore généralisé. Oui. Mais la mise à jour partielle déclarative. Qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi c'est super intéressant?
Alors, c'est super intéressant parce que aujourd'hui on peut faire du streaming en HTML. Donc, c'est très bien géré par les navigateurs et par les serveurs. Hein. Tu peux recevoir, donc tu reçois ta page au fur et à mesure qu'elle arrive. En fait, les éléments s'affichent. C'est du streaming, quoi. C'est des chunk par chunk, tu vois. Donc, ça, c'est très bien géré depuis un moment. Et là, en fait, ce qui sort, en fait, c'est du streaming. Bah, le truc actuel, c'est que c'est dans l'ordre, en fait, dans l'ordre que ça arrive. Donc, voilà, t'as header, le héros, etc. Donc, c'est vraiment ordonné.
Et le footer à la fin.
Ce truc-là, ouais, voilà, c'est vraiment dans l'ordre de la page. Ce truc-là, c'est génial parce qu'en fait, c'est du streaming, mais désordonné, en fait. Et ça, c'est pas mal parce que, en fait, donc, il y a des nouveaux marqueurs, des nouveaux tags qui te permettent, en fait, via le template, le fameux template HTML qui est déjà utilisé et compatible partout, de recevoir des éléments plus tard. Donc, c'est-à-dire, ta page se charge jusqu'au footer et tu as des éléments qui s'insèrent au milieu et qui arrivent un petit peu plus tard. Donc, vraiment, la page est construite au fur et à mesure que les éléments arrivent, mais dans le désordre, en fait. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est une sorte de... Ça se rapproche de tout ce qu'on a, React, etc., le Island, tout ce que tu veux. Des éléments qui sont plus lourds, etc., qui sont chargés après. Par exemple, si tu as des images, c'est un peu plus long parce qu'il faut charger les images, bah, il arrivera après. Donc, c'est pas mal. Il y a Graphicart sur sa chaîne YouTube, là, il a fait une petite vidéo qui n'est pas très longue et il en parle très, très bien. Il explique exactement comment ça marche et c'est pas mal.
Super intéressant. Et est-ce que ça, en fait, ça va nous permettre de venir augmenter, en tout cas d'améliorer tout ce qui est Core Vitals,
totalement.
CLS, les INP, enfin, j'ai plus tous les acronymes, je suis pas expert là-dedans, mais tous ces chiffres-là, en fait, seront bien meilleurs.
Ouais.
Ok, ça c'est cool. Et est-ce que tu peux aussi choisir l'ordre d'apparition?
Non, ça, je crois pas que tu puisses choisir l'ordre d'apparition. Parce que ça va pas aussi loin. C'est vraiment on reste vraiment sur HTML. Il n'y a pas de JS, tout ça. Mm-hmm. Mais, bon, le markup est assez simple à utiliser. Tu peux mettre un système de loading si tu veux. Regarde, si tu remontes un petit poil, là, pour ceux qui sont sur la vidéo YouTube, tu as, là, descends. Là. Ici, tu vois, t'as un start et un end. Tu vois, t'as deux balises et au milieu, tu mets loading. Donc, tant que le, en fait, tu vois que tu as... Alors, j'explique comment ça marche. Alors, voilà. En gros, tu as un endroit où tu vas mettre un name. Donc là, c'est results. Et en dessous, tu peux... Donc, le template, tu peux le mettre n'importe où dans la page. Tu peux le mettre en bas de ta page. Donc, tu as template for results. Et est-ce que tu dois insérer dedans? Et ce template va aller s'insérer au bon endroit. Et donc là, tu peux faire afficher un loading ou mettre un loader qui tourne, tout ça, etc. En attendant que ce soit chargé. Donc, tu peux vraiment... ça peut être très, très propre. Et le markup est hyper simple en fait. Tu vois, le vrai marqueur officiel, c'est le point d'interrogation marqueur. Si tu fais pas de loading, et du coup, c'est voilà, il y a quelques balises à apprendre. C'est hyper simple et ça fonctionne. Top. Et c'est natif. Et c'est génial.
C'est natif. Par contre, c'est encore derrière un feature flag.
C'est, ouais, c'est expérimental.
Nativement, aujourd'hui, même si je mets à jour mon navigateur, je ne peux pas utiliser ça. Il faut que moi-même, j'active en fait ce feature flag pour que ouais, ça marche dans mon navigateur.
Ouais, à partir de Chrome 148, bon, sachant que la majorité des navigateurs tournent sur le Chromium, donc si c'est implémenté rapidement, tout ça, ça devrait arriver... Allez, espérons peut-être à la fin de l'année sur une majorité et après à voir si Firefox et WebKit l'implémentent rapidement. Mais c'est vraiment top, quoi. Et c'est sûr que ça va, on va gagner en performance de chargement, tout ça, c'est évident que ça va faire.
En perf.
Ouais, on va gagner en perf, ouais, complètement. Et du natif, quoi.
Yes. Petit retour sur les MCP. où justement le standard, et on en a déjà parlé sur le web MCP, sauf que là, c'est un article qui nous explique comment on pourrait, nous, se protéger des injections. Explique-nous, en fait, comment on doit, nous, se protéger de tout ça.
En fait, c'est un article qui t'explique... Alors là, ce n'est pas côté code et côté web MCP que tu veux implémenter, c'est plutôt... côté utilisateur d'un agent qui va aller sur un site et utiliser les WebMCP. En fait, c'est comment se prémunir des faiblesses, du hacking, tout ça.
Des WebMCP un peu malveillants qui pourraient...
Avec de l'injection de prompt et des trucs comme ça. Donc, il t'explique déjà les dangers, sur quoi on peut tomber. Injection de prompt ou jouer un script tiers, etc. Donc, ils te disent comment faire. Donc, il y a quelques exemples comme limiter le nombre de tokens. Ça peut limiter l'attaque. Bloquer les trucs, les scripts qui sont en cross-origine, tu vois. Plein de choses comme ça, en fait. Faire attention à plein de trucs, tu vois. Définir les limites des jetons. C'est-à-dire, si tu te fais prendre une injection de prompt, en fait, limitant les jetons qu'il a le droit d'utiliser, ça peut limiter, en fait, l'attaque. Il y a plein de conseils, en fait. Parce que oui, les MCP... En général, c'est dangereux. Les WebMCP, du coup, logiquement, c'est dangereux aussi. Donc, attention, parce que voilà, tu vas demander à ton agent, va faire ça sur tel site. Et là, s'il se prend des injections de prompt, etc., ton agent, il peut faire des actions qui sont malveillantes sans réfléchir. De toute façon, l'agent, il a des instructions et il exécute des instructions. Donc, si jamais
il est un peu bête et méchant parfois.
Un peu, ouais. Ouais. Donc voilà, c'est intéressant à lire. Et puis, c'est pas encore actuel, les WebMCP, on en a parlé juste avant, mais ça va arriver. Donc c'est intéressant de connaître un petit peu les limites et comment s'en prémunir.
C'est juste une question de temps avant que ça devienne un standard. Ouais. Si ça devient un standard, on va pas revenir dessus. Mais yes, carrément. Allez, on va parler de marge, de pognon, de token, parce qu'on a deux sons de cloche. Il y en a qui nous disent c'est super rentable et d'autres qui nous disent non, mais les gars, on se fait avoir. clairement, c'est deux tweets qui sont totalement... l'un dit noir, l'autre dit blanc. Et donc là, en fait, on nous montre que selon les plan qu'on a pris chez OpenAI ou chez Anthropic, en fait, pour le prix qu'on a payé par mois, en fait, on a comme valeur exhaustive, en fait, bien plus d'argent que le coût réel. C'est ça que ça pour faire
ouais, court, c'est ça, en fait.
C'est le résumé, quoi.
Ouais, pour des. En fait, il comparait les deux abonnements. Enfin, il parlait donc de Anthropic ou OpenAI principalement. Et il disait, chez Anthropic, pour un abonnement pro à $20, tu as à peu près $400 de tokens, en gros, d'utilisation. Pour $100, tu as 2 000 € de tokens. Donc, en fait, déjà, on voit que plus on prend un gros abonnement, mais plus c'est généreux. Donc, on parle toujours d'abonnement. Comment on appelle ça subventionné.
Oui.
Puisque du coup, tu payes 200 balles et tu as $8 000 d'API, tu vois. Donc, c'est quand même fou. Ça va bientôt changer, vous inquiétez pas. Et par contre, chez OpenAI, ils sont super généreux parce que par rapport à Anthropic où tu as 400 pour 20, et là, chez GPT+, tu as, pour $20, tu as $700. Donc, déjà, rien que l'abonnement, le premier niveau, tu as déjà plus de tokens disponibles. Et pareil pour le pro 5 fois, pour $100, tu as 3 500. Alors que tu avais 2 000 chez Anthropic. Donc voilà. Ils disent que déjà, GPT est beaucoup plus généreux. OpenAI est plus généreux. En
ouais,
plus,
mais
notamment,
la douille,
OpenAI
elle
ne
est
bloque
où
pas les.
Ouais, ouais, mais la douille, elle est où? Parce que, en fait, est-ce que les mecs, c'est pas rentable parce qu'ils les vendent à l'API et donc Quel est le vrai prix, en fait? La question, c'est ça. C'est
le vrai prix.
Quel est le vrai prix?
Le vrai prix. Déjà, depuis le 15 juin, donc depuis 2 jours, parce qu'on est le 17, depuis 2 jours, il y a des entreprises là qui utilisent tout ce qui est business et entreprise. Et eux, ils payent le vrai prix parce que là, ils sont passés sur l'API, tu vois, sur les comptes entreprise. Eux, ils vont savoir ce que c'est le vrai prix déjà. Et après, il y a un truc, c'est que là, les deux se battent en fait. Aux États-Unis, alors on va dire en Europe, on a Mistral, il y en a d'autres, mais on a Mistral le plus connu, donc il est un peu tout seul, tu vois, alors qu'aux États-Unis, ils sont deux vraiment acteurs majeurs. Après, il y a Grok, tout ça, il y en a d'autres, mais là, et du coup, ils se battent pour les parts de marché. Donc là, voilà, il y en a un coup, c'est GPT qui donne plus, un coup, c'est Anthropique, et ça s'inverse de temps en temps, et puis voilà, etc. Donc c'est, là, c'est la guerre, en fait, des tarifs, quoi. Donc aujourd'hui, c'est ça, mais ça va changer peut-être dans quelques mois. En tout cas, ouais. C'est...
Là, on a ce poste-là qui nous dit OK, ouais. Les abonnements, c'est vachement mieux. Mais à côté de ça, en fait, on a un dépôt de plainte ouais. aux États-Unis où eux, ils ont calculé et ils disent mais attends, le prix réel de l'abonnement là, c'est pas bon du tout quoi. C'est pas vrai en fait. On nous met une douille parce que au final, eux quand ils font leur calcul, quand tu dis 5, ben en final c'est que 3,5. Ouais. Et quand tu dis 20, voilà. Bah en fait, c'est pas.
C'est ce qu'il faut.
C'est juste 10, quoi. Tu vois. Donc, donc c'est pas.
Non, on a totalement l'inverse. Donc, il y a une affaire, il y a une plainte qui a été posée sur Anthropique, en fait, en disant l'usage limite, donc la limite de 5 heures, en fait, elle n'est pas du tout respectée. Et donc, là, c'est vraiment un tableau, tout ça, qui est dans le dépôt de plainte. Comme quoi, pour le max 5 fois, tu as que 3,5. Donc, ils ont calculé tout ça. Et en fait, ils disent, on n'a pas du tout ce qui est annoncé à la base dans la limitation de 5 heures. Donc, voilà. Donc, ils déposent une plainte, tout ça, machin. Donc, on a totalement l'inverse de l'autre qui te dit, ah, c'est super généreux. Et c'est là, en fait, ils disent, non, c'est pas du tout bon. On a moins que ce qu'on devrait avoir. Donc, voilà.
Ouais.
Donc, quelles sont les cloches à écouter, je sais pas.
Et pour le coup, peut-être que la vérité est peut-être un peu au milieu. Je pense que l'API, vendre au token à l'API, c'est du gavage maximum. Les abonnements sont peut-être plus généreux et subventionnés pour créer une sorte d'accoutumance ou en tout cas de ouais. business et de rétention de business, parce que si tu demandes que à l'API, ça veut dire que demain tu bascules de l'un à l'autre assez facilement, parce que en fait tu débranches l'un, tu branches l'autre, sauf que ouais. si t'es un abonnement, t'es beaucoup plus captif, parce que par définition t'es soit au mois, soit même à l'année pour payer moins cher encore, mais t'es captif. Donc, c'est très compliqué. Ce qui est sûr, c'est que ça va bouger. C'est que ce prix-là, en fait, n'est pas viable dans le temps.
Non.
Et donc ça va bouger. On va y revenir avec des solutions locales. Mais juste avant de passer en mode local, tu as parlé de Mistral. Donc, Arthur Mensch, qui est le cofondateur de Mistral, en fait, s'est retrouvé dans un shitstorm, en tout cas une polémique, un truc assez sympa. Et est-ce que tu peux nous raconter toute l'histoire autour de Chaton?
Ouais, Chaton Fat. En fait, ça a plus ou moins commencé, a priori... vendredi, quand ils ont coupé l'accès à Fable et comment il s'appelle l'autre modèle
Mythos.
Donc, quand les États-Unis ont déposé un truc pour couper les modèles non américains, donc à ces deux modèles, et Mistral a juste dit que eux, ils couperaient jamais l'accès à leurs modèles, sur ordonnance, etc. Donc eux, ça marche tout ça. Et je pense que ça a été mal pris. Et du coup, les Américains se commençaient à se. Alors les Américains se moquent beaucoup de l'Europe. Si vous avez déjà travaillé avec des boîtes américaines, c'est un peu particulier. Ils nous voient un petit peu comme le tiers monde, faut savoir.
Il y a une condescendance américaine.
mais un truc de fou. Ma femme bosse avec des boîtes américaines, c'est juste hallucinant en fait.
Ouais.
Et donc ils ont commencé à sortir un modèle, à inventer un modèle qui s'appelle Chaton Fat, donc un château obèse là, tu vois, en disant Mistral sort Chaton Fat et tout, un nouveau modèle qui dépote quoi, il bat Fable, etc. Il est trop fort, tout ça. Ils ont fait plein de trucs, des faux benchmarks et tout ça.
Enfin, c'est bullshit à mort quoi, bullshit à mort.
Ah, bullshit à mort, mais vraiment pour ce modèle pour se moquer de Mistral et de l'Europe, comme quoi on n'avait pas de trucs compétitifs, etc. Mm-hmm. Donc c'est marrant, mais en même temps, c'est un peu des enfoirés. j'ai envie de dire, ils ont qu'à regarder leur président en même temps. Il n'y a pas de quoi être fier. Mais en même temps, ça m'a fait marrer parce que Arthur Mensch s'est pris un petit peu au jeu. Il a un peu communiqué. Il a mis des images avec un chaton obèse, etc. Il a généré des images. C'était assez drôle de voir qu'il réagissait, mais en rigolant, tout ça, machin, tout ça. Mais du coup, au final, il a quand même lancé un tweet en disant... bon, c'est cool, tout ça, on est un peu dans la tourmente, tout ça, mais soyons sérieux, tout ça. Et il a expliqué que, bah, ils allaient sortir des nouveautés d'ici cet été, donc un nouveau modèle, etc., qui sera encore plus performant, etc. Donc, voilà, ils ont pas mal de prévisions de produits qui vont sortir d'ici cet été, qui seront même en préversion pour certaines personnes, tout ça. Donc, contrairement à ce que tout le monde dit, Mistral sort des nouveautés tout le temps et Mistral bosse beaucoup. Je rappelle, alors ça m'a fait halluciner, j'ai vu un article justement qui parlait de Chaton Fat et qui disait que Mistral n'avait rien sorti depuis des mois. Désolé, mais Mistral, il y a 15 jours, ils ont sorti un nouveau modèle qui s'appelle Medium 3.5, qui est assez performant pour le code, etc. Ils ont sorti une nouvelle version de Vibe, en fait. Avant, le chatbot, il s'appelait Le Chat. Maintenant, ouais, il s'appelle Vibe, avec tout un modèle. Ils ont des. Maintenant, tu peux mettre des MCP et tout ça. C'est hyper bien fait, l'interface et tout ça. Donc, non, je suis désolé, Mistral sort des nouveautés. Ils font moins de marketing que les Américains, ça, c'est sûr. Ils sont moins présents dans les médias. Mais non, si vous n'avez pas essayé Mistral depuis longtemps, réessayez-le. Vous allez voir qu'il est quand même pas trop mal. Même si les modèles sont un petit peu en dessous, évidemment, des modèles fermés américains. Mais ils sont quand même largement utilisables pour pas mal de tâches du quotidien, etc. Donc, bref. Moi, je suis à fond pour Mistral.
Et Mistral fait vend aussi de l'inférence, mais on en a parlé dès le départ et on en parle de plus en plus. On voit qu'il y a quand même une tendance de local, donc c'est-à-dire d'avoir des machines qui sont dédiées à ça. Et aujourd'hui, AMD vient de lancer une machine à 4000 balles, soit Ryzen, mais vraiment dédiée pour l'utilisation locale d'une AI avec un modèle qui tourne en local pour faire toutes les tâches, on va dire, qu'on pourrait avoir besoin. Donc, je pense aux créatifs, mais surtout pour nous développeurs, quoi.
Ouais, ils ont sorti, donc ça a été annoncé cette semaine, là, début de semaine, je crois, un modèle donc à peu près à 4 000 $ qui est capable de faire tourner, ça peut prendre en charge des modèles jusqu'à 200 milliards de paramètres, donc des très gros modèles. Donc là, on est vraiment sur un petit, il est tout petit, hein, il tient dans la main comme un Mac mini, sauf qu'il est super puissant et il est capable de faire tourner des gros modèles. Donc ça peut être une super solution pour faire tourner de l'IA localement dans une entreprise, dans une petite entreprise, tout ça, ou même en avoir plusieurs, pourquoi pas. 4 000 $, c'est pas délirant pour une entreprise, hein. Ils ont toujours des achats assez importants sur les machines ou sur des ordi ou sur même des trucs de stockage. Donc 4 000 $, ça reste raisonnable. Ça peut être vite rentable si vous avez une grosse consommation de tokens, surtout si vous mettez des modèles comme GLM2, 5.2. Donc, super intéressant, quoi.
Et pour le coup, moi, je suis totalement hypé par ça, hein, mais totalement, parce que quand tu fais tes calculs, au-delà de la puissance et de l'aspect financier, si tu veux, moi, ce que je regarde, c'est une sorte de souveraineté où tu es autonome, tu n'es pas tributaire du marché, tu n'es pas tributaire des fluctuations de prix. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même les ricains qui font la loi, qui dictent le prix du marché et tout. Aujourd'hui, on sait que c'est subventionné. Donc, à un moment donné, en fait, en tant qu'investisseur, ils vont dire « get my money back ». Je veux mon argent, donc comment je fais pour récupérer mon argent ? J'ai investi des millions dedans, ok, c'est bien, mais il faut que j'ai mon argent en retour, quoi. Donc, est-ce que ça passe par ces machines-là ? Il y a une autre petite machine qui existe aussi qu'on trouve GM Tech. Ouais. Il y a Asus qui en a aussi une sur laquelle tu peux même brancher en série. C'est-à-dire tu peux en mettre 2, 3, 4 et tu viens avec via un câble spécifique Nvidia, machin, mais tu viens en fait coupler deux ou trois machines en même temps. Donc, c'est vraiment top. Mais au-delà de ça... moi, je me pose vraiment la question. Par contre, il y a un couplage indéniable entre la machine, le modèle, ton IDE, ton harnais, quoi, si tu veux, ton environnement de dev. Est-ce que tu vas utiliser Cloud Code ou tu vas utiliser Pi ou n'importe quoi pour avoir des performances intéressantes, pour ne pas le sursaturer de contexte, lui donner ce qu'il faut. Il y a toutes ces optimisations-là. On sent qu'il y a une effervescence en ce moment sur le local. Je ne sais pas si tu partages ce sentiment-là.
Complètement. Bah, de toute façon, on l'a vu avec l'épisode sur l'IA locale qu'on a sorti. Il a assez, c'est un de nos épisodes qui a le mieux marché d'ailleurs. Donc, clairement, ça intéresse beaucoup de gens. Il y a de plus en plus, on en a parlé là, durant l'épisode, les modèles open weight sont de plus en plus performants. Donc, du coup, c'est, voilà, on sait qu'on a un truc viable si on l'installe en local. Alors, attention, quand même, il faut quand même un certain niveau de compétence pour pouvoir installer un modèle sur une machine, etc. Parce que là, tu n'utilises pas forcément Ollama, tu vas utiliser, je ne sais plus comment ça s'appelle, on en a parlé dans l'épisode, mais il y a des frameworks Python pour faire tourner des modèles, tout ça. Donc, il faut quand même mettre les mains dans le cambouis, hein, je pense, pour que ça tourne correctement. Donc, faut quand même, si vous avez quelqu'un de technique en interne, ça peut être intéressant, parce que plus il va pouvoir changer de modèle ou faire varier différents modèles. Voilà, c'est pas aussi simple, mais ça peut valoir le coup, ouais, vraiment, au niveau du tarif. Et j'imagine qu'une fois que tu as un truc comme ça qui tourne avec un bon modèle et tout ça, tu dois regarder les news IA avec les modèles, les prix qui explosent, etc.
Tu t'es mort de rire.
Ouais,
tu rigoles. C'est, non, ouais, mais c'est sûr. Mais si tu veux, en fait, il y a la promesse papier qui, ouais, sur le papier, me paraît super bien. Après, il y a la réalité au quotidien. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que une demande que tu fais à Anthropic aujourd'hui, tu vas attendre 2 minutes? Je prends un exemple. Bah, là, en local, ouais, il va falloir que tu attendes 10 minutes. Tu vois. Est-ce que...
Ouais,
non, mais je veux dire, ouais, est-ce qu'on est sur ce ratio-là où on est de 2 minutes à 1 heure, tu vois, le ratio, en fait, l'inférence cloud versus l'inférence locale, est-ce qu'on est sur ce, ouais, type de ratio-là? Parce qu'en termes de productivité et d'organisation, en fait, ça sera totalement différent. Si tu dois lancer ta requête et ton agent et tu vas faire ta séance de sport pendant 3 heures et puis tu reviens, tu vois, ou si tu veux, en termes de productivité, c'est ça qui m'intéresse, et surtout au quotidien, si tu veux, moi j'utilise Cursor, bah, par exemple, tu vois, j'utilise Cursor, je sais que j'ai des projets avec beaucoup 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 de contexte parce que c'est un monorepo, même si je lui dis, j'essaye d'être le plus exhaustif possible, j'ai des skills, j'ai beaucoup de skills, j'ai des règles, des agents et tout ça, j'utilise tous les RTK, Kaufman et tout ce que tu veux pour limiter, tu vois, compacter, mais mine de rien, mes tests. Et j'accepte volontiers que aujourd'hui je ne suis pas bon sur la mise en place de ça. J'ai un Mac Mini avec 64 gigas de mémoire VRAM partagée. Aujourd'hui, ok, je vais atteindre 70 tokens, 80 tokens seconde, si tu veux, sur l'output. Ouais, sauf que ma fenêtre de contexte, elle est juste énorme. Et donc, tu vois, il y a plein de paramètres au-delà de la machine, le modèle, ton environnement, ton contexte. Si tu veux, il faut vraiment que tout ça soit hyper bien aligné pour que tu aies une expérience fluide, on va dire.
Ouais, c'est pour ça que je te dis. Ouais, oui, mais c'est ça. C'est pour ça que je te dis qu'il faut quelqu'un qui soit capable de mettre les mains dans le cambouis, qui s'y connaisse un petit peu, qui, voilà, un DevOps, à la limite, quelqu'un qui, voilà, qui soit capable de mettre tout en place. Après, avec le modèle AMD, qu'on a le premier modèle, je pense qu'il n'y aura pas de problème de latence ou quoi que ce soit, ça sera ultra rapide. Après, tout dépend du modèle que tu vas installer dessus, hein, évidemment, et qui va taper dedans, mais combien de personnes. Après, peut-être il en faut plusieurs, mais non, c'est totalement viable. Et puis, il y a des outils aujourd'hui qui sont capables de... Tu prends OpenCode, tout ça, machin. Bon, même Claude Code est capable de se connecter avec autre chose qu'Anthropic. Oui. Mais tu as OpenCode, moi, sur VS Code, par exemple, j'utilise KiloCode, qui est un système pour se brancher avec plein de modèles, etc. Enfin, il y a plein de solutions aujourd'hui qui te permettent de te connecter avec autre chose qu'OpenAI ou Anthropic. Donc, le choix est là déjà. Donc.
Pour le coup, moi, je suis encore en expérimentation. Je suis pas full in love, tu vois, mais j'expérimente encore. Mais en tout cas, ces nouveaux modèles-là, c'est sûr que je vais tester.
De toute façon, nous, on est toujours là et on continuera à en parler. Donc, restez à l'écoute.
Exactement. Écoute, Patrick, on en reste là pour cet épisode.
Ouais.
Et on vous dit à bientôt pour d'autres épisodes. Évidemment, comme d'habitude, le petit pouce, le petit like, le petit partage, ça fait toujours plaisir.
Et merci aux sponsors.
À bientôt. Exactement. Un grand merci à tous les sponsors. Merci à eux. À très vite. Ciao, ciao.
Ciao.